Mathilde Serrel, ce matin, vous évoquez des prix, mais pas des prix économiques, des prix littéraires.
Oui, parce que c'est une forme de rentrée scolaire pour la littérature, Guillaume, aujourd'hui, celle des prix littéraires. Le Renaudot donnera sa sélection aujourd'hui, le Goncourt sa première shortlist demain, Le Monde décernera mercredi le premier prix de la saison et on connaît déjà la lauréate du prix des libraires de Nancy, Le Point, qui sera couronnée vendredi. Qu'est-ce qui fait encore le sel de cette séquence ultra ritualisée, aux allures pourtant bien feuillues, de marronnier journalistique? Le reportage annuel sur les fournitures scolaires ayant en apparence à peu près le même attrait que le tableau annuel des bons élèves de la rentrée littéraire. Eh bien, même dans la répétition, cet exercice codifié, annonce des élus potentiels, paris sur les favoris, tractation des maisons d'édition, nous donne toujours un signal. Bien sûr, il y a une tradition du refus. Dès 1950, Julien Gracq, dans la littérature à l'estomac, fustige le système des prix littéraires, l'incompétence des jurés et les préjugés de la critique. Il devient l'emblème des refusants pour l'histoire des prix lorsque l'Académie Goncourt le sacre contre sa volonté pour Le Rivage des Sirtes en 1951. Son éditeur José Corti refuse d'ailleurs d'habiller l'ouvrage du traditionnel bandeau Prix Goncourt. Quant à Jean-Paul Sartre, il refuse même la plus haute distinction, le prix Nobel de littérature en 1964, et se justifie ainsi. Aucun artiste, aucun écrivain, aucun homme ne mérite d'être consacré de son vivant parce qu'il a le pouvoir et la liberté de tout changer. Le prix Nobel m'aurait élevé sur un piédestal alors que je n'avais pas fini d'accomplir les choses, de prendre ma liberté, d'agir et de m'engager. Tradition du refus jusqu'à nos jours. En 2015, on se souvient de Joseph Andras qui décline le Goncourt du premier roman pour De nos frères blessés car, je cite, sa conception de la littérature n'est pas compatible avec l'idée d'une compétition. Mais pour ceux qui continuent à suivre ce prosaïque et infamant feuilleton des prix littéraires, force est de constater que dans la profusion des sorties, 581 nouveaux romans publiés dont 390 français, eh bien l'émergence de certains favoris nous dit malgré tout quelque chose de l'époque. En dépit de tous les artifices qui peuvent être dénoncés, l'exercice a valeur radiographique. Prenons le cas de L'Art de perdre d'Alice Zeniter. Elle est publiée chez Flammarion, sélectionnée entre autres pour le prix littéraire du Monde, déjà lauréate annoncée du prix des libraires Le Point vendredi, qui est connue pour ses bonnes augures du Goncourt. Mathias Sénard y avait été couronné pour Boussole, ainsi que Lydie Salvert pour Pas pleurer. Et bien, L'Art de perdre est un regard sur la guerre d'Algérie, indépendance, fuite des harkis à travers trois générations. C'est une enquête qui recoue les trous de la généalogie, qui comble les silences transmis entre les vignettes, pour reprendre les mots de la narratrice Naïma. Une jeune femme née d'une mère dijonnaise et d'un père kabyle, qui tente de faire parler les non-dits hérités du grand-père Ali, harki, mis au banc et chassé par le FLN en 1962. Dans une France qui, elle non plus, n'a pas encore les mots pour dire cette part de l'histoire. Ce qui cristallise le roman d'Alice Zeniter, c'est que l'on peut croire encore à une littérature capable de réparer non seulement les vivants, mais le présent.
On termine avec une brève, Mathilde, et au fond, peut-être un autre signal à décrypter.
Mais on avait presque cru à une information du site parodique Gorafi quand la nouvelle est tombée en juin. Celle qui avait souvent occupé à plusieurs reprises et non sans heurts la position d'auteur invité sur le plateau d'On n'est pas couché de France 2 prenait la position de chroniqueuse à la rentrée, Christine Angot. Comme une étrange traversée du miroir, elle a fait, selon l'expression consacrée, ses premiers pas dans ce rôle inversé samedi soir. Et elle s'est expliquée sur ce qui l'a poussée à dire oui.
En fait, quand vous m'avez appelée, je me suis dit mais... Je ne comprends pas. Je vois vraiment pas pourquoi il m'appelle. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je le ferai pas? Voilà. Il faut arriver à parler, même dans une salle blanche, même dans une salle éclairée, où normalement on ne peut pas parler. C'est pour essayer de parler quand même.
Vous savez qu'Aurélien Bélanger s'est peut-être dit ça, hein, quand on l'a appelé à la rentrée.
Vous êtes dit quoi, Aurélien Bélanger?
Il faut s'habituer à parler, même dans un studio de radio.
C'est pas blanc, hein, y a France Culture partout, c'est violet.
Oui, c'est ça qui rend les choses plus confortables.
J'ai mentionné le violet comme une petite phobie de couleur, je crois.
Alors pour ce qui est l'analyse de la prestation de Christine Angot, jugée timide et abstraite, je vous renvoie aussi d'actualité des médias. Mais là encore, c'est peut-être l'histoire d'une parole impossible qui se joue et peut-être aussi le matériau d'un prochain livre.
Merci beaucoup Mathilde Serrel.